Jeune, si jeune et ambitieux.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Je vous propose aujourd'hui de partager un peu de la vie d'enfants et d'adolescents à la poursuite de leurs rêves. Ils sont talentueux, travailleurs et déterminés à devenir des sportifs de haut niveau. Ils sont les héros d'un livre, Deux pieds sur terre, soit l'immersion du journaliste Basile Debure chez les espoirs du club de foot de Red Star, et elles sont au centre du film Petite danseuse, réalisé par Anne-Claire Dolivet, qui sort le 4 novembre et dont nous parlons ce soir. Mais le chemin et l'éducation de ces jeunes footballeurs et de ces petites danseuses, entièrement tendues vers un projet si peu accessible, semble bien ardu, tant sur le plan physique que psychologique, et j'avoue m'être posé beaucoup de questions sur le prix des sacrifices et la place de l'enfance dans ce travail sportif, ainsi que sur la manière dont vous structure une telle expérience de vie. Pour y répondre et m'aider, nous aider à y réfléchir, l'équipe d'Être et Savoir a également convié dans ce numéro un historien, Georges Vigarello, un sociologue du sport, Fabrice Burlot, et une psychologue qui s'intéresse aux jeunes sportifs de haut niveau, Karine Duclos. Et puis nous commençons comme chaque semaine avec notre question d'actualité, nous allons vous parler de Jean Jaurès. Après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé qu'un texte de Jean Jaurès serait lu le 2 novembre, jour de rentrée des élèves et des professeurs en classe dans les établissements scolaires. La lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès a été publiée à l'origine dans La Dépêche, le 15 janvier 1888. Alors je ne le savais pas, mais Jean Jaurès a collaboré avec ce journal de 1887 à 1914. Il y a publié 1312 articles, c'est ce que rappelle Sébastien Marcel, journaliste dans ce même quotidien. Aujourd'hui, quotidien qui republie le texte en ligne, si vous voulez le consulter, ainsi que la page d'origine du journal. Claude Lelièvre, vous êtes philosophe et historien de l'éducation. Avez-vous été surpris par le choix de ce texte ?
Pas vraiment, même s'il est intéressant. Il s'agit du jeune Jean Jaurès. À l'époque où il fait cette lettre, c'est un jeune agrégé de philosophie. Il a enseigné 2 ou 3 ans et il vient d'être élu député, le plus jeune député de France. C'est un républicain de progrès. Il n'est pas encore le Jaurès socialiste, leader d'un grand parti que nous connaîtrons plus tard.
Il s'adresse directement aux professeurs et leur parle de pédagogie. Comment peut-on qualifier la pensée pédagogique de Jean Jaurès et en quoi trouve-t-elle d'ailleurs un écho aujourd'hui ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas du tout une lettre pour encenser les instituteurs et les institutrices. Ce n'est pas une lettre aux hussards noirs. C'est une lettre pour les exhorter à être à la hauteur de leur tâche. Et en gros, il leur dit, votre tâche, ce n'est pas d'être au niveau du déchiffrage, au niveau du comptage, au niveau d'un primaire rudimentaire des rudiments, vous avez une grande tâche, c'est de libérer et projeter dans l'avenir les jeunes Français, aussi bien sur le plan de la patrie, ils sont Français, des citoyens, ils sont citoyens et ils sont hommes. Donc, pour cela, un seul véhicule, savoir lire comme vous et moi, dit-il. Donc, c'est une profession de foi, à la fois sur les perspectives d'avenir que doivent avoir les jeunes Français. Il fait confiance aux Français, il fait confiance aux jeunes, il fait confiance aux instituteurs à condition qu'ils ne rétrécissent pas leur rôle. Et leur rôle, c'est d'apprendre avant tout à ce que les Français lisent très bien. Parce que si on lit très bien, alors on est sauvé puisqu'on peut lire l'ensemble de la culture.
Il parle aussi de cette étincelle, Jaurès, cette étincelle qu'on peut faire naître dans chaque esprit d'enfant, cette étincelle de la pensée.
Oui, mais il fait une confiance très très grande aux capacités de chacun. Il croit à l'éducabilité. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il est tout à fait en continuité avec Jules Ferry, qui lui aussi disait qu'il fallait faire confiance à la spontanéité de l'enfant, à l'accompagner, etc. On était absolument pas dans le rétrécissement et le rabougrissement à la fois culturel et pédagogique. C'était une époque où on croyait en l'avenir. De ce point de vue-là, c'est intéressant, du moins si la lettre ne prend pas certains extraits et en laisse d'autres dans ce qui va être lu parce que c'est vraiment une lettre qui se projette dans l'avenir et qui ne le craint pas.
Qui ne craint pas l'avenir, et il faut dire, rappeler, on doit rappeler, je ne pense pas que ce sera fait le 2 novembre, en tout cas Jean-Michel Blanquer ne l'a pas fait, que Jaurès, en France, jusqu'à il y a peu de temps, c'était l'héritage de la gauche. Un héritage qui compte, alors qui compte peut-être dans le cœur de beaucoup d'enseignants, si on considère qu'ils sont nombreux à être de gauche. Là, c'est une figure que le ministre de l'Éducation d'un gouvernement qui n'est pas de gauche se met en avant. Qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que s'il le met en avant et que ce n'est pas simplement un faux-né, eh bien, ce serait une bonne chose, parce que c'est un gouvernement qui tend, en tout cas dans ses aspects de l'éducation nationale à travers la figure du ministre, plutôt à la défiance qu'à la confiance, au rabougrissement plutôt qu'à l'allant et à la confiance envers les élèves, envers les enseignants. Parce que ce qui est caractéristique de chez ce jeune Jaurès, ce n'est pas qu'il est clivant sur le plan politique, c'est qu'il est homme d'avenir. Il veut, au fond, poursuivre le mouvement d'avenir lancé par les Républicains. Il s'agit de passer de la République politique démocratique à la République démocratique sociale. Il s'agit pour dire, donc, de faire confiance à la base. Donc, si c'est ça, s'il s'agit de faire confiance en Jaurès, bravo, mais j'attends de voir.
Petite question subsidiaire, Claude Lelièvre. Quand j'ai entendu la lettre aux instituteurs, j'ai pensé, moi, à Jules Ferry, parce que c'est un texte très connu aussi de Jules Ferry. Et Jules Ferry, justement, dans sa lettre aux instituteurs, dit on ne doit pas dire quelque chose qui choquerait un père de famille. Est-ce que quelque part, le fait de choisir Jaurès et pas un texte de Ferry ou même de Ferdinand Buisson, enfin des gens qui sont plus directement attachés à la mémoire de l'école, montre qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec ces pensées qui sont aussi assez anciennes au regard de l'histoire de l'école. Mais évidemment, ça date.
C'est parce qu'on a obscurci le sens de la lettre de Jules Ferry. La lettre de Jules Ferry, il n'arrête pas de dire qu'il faut surtout pas, effectivement, choquer la conscience des parents d'élèves et des élèves sur la question de la morale commune. Il insiste sur le fait qu'il faut en aucun cas n'effleurer le sentiment religieux. En revanche, sur le plan politique, il n'arrête pas de dire qu'il faut au contraire être ferme, car d'ailleurs, la lettre aux instituteurs, elle est destinée à dire, un, vous êtes capable et vous devez enseigner la morale. Il n'y a pas que le clergé qui peut enseigner la morale commune, c'est votre dignité. Et d'autre part, il s'agit surtout de ne pas effleurer de façon quelconque des consciences religieuses. Et troisièmement, il faut être pas neutre politiquement, puisqu'il s'agit de former des républicains à un moment où il y a à peine une moitié de républicains parmi les votants. Comme on a obscurci ou simplifié cette lettre aux instituteurs, évidemment, c'est difficile d'en faire une exégèse. Alors, on passe par Jaurès.
Et on va donc passer par Jaurès lundi prochain, le 2 novembre. Merci beaucoup, Claude Lelièvre. Je rappelle que vous êtes historien de l'éducation. Et on passe à notre sujet du jour.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Les jeunes et le sport de haut niveau à travers un film, Petite danseuse et un livre. On commence avec le livre Deux pieds sur terre. Il est présenté par des protagonistes, jeunes joueurs au Red Star à Saint-Ouen en banlieue parisienne. C'est un petit film qui a été tourné par votre éditeur Basile Debure, Flammarion.
Basile, dans ce livre, tout au long de l'année, il nous a suivi aux entraînements, aux matchs, dans les victoires, dans les défaites. Il montre aussi l'histoire d'une bande de potes qui veulent jouer au foot et vous découvrirez s'il y en a qui ont signé. Après, moi je pense que en général, les gens du 93, ils sont mal vus. Mais dans cette histoire, Basile, il raconte que c'est pas des jeunes comme tout le monde les voit, qui sont superbes, qui sont intelligents, qui sont drôles, ils sont travailleurs. On aime passer des bons moments avec.
C'est notre histoire. Ce qu'on a fait à Bauer, à Saint-Ouen, c'est la nôtre réelle.
John et À Nice, je me faisais redire leur prénom par Basile Debure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et auteur donc de ce livre qui retrace, bon, je crois que c'était bien expliqué d'ailleurs dans le son, le parcours de ces jeunes. Un livre que vous avez eu envie d'écrire aussi parce que vous-même, vous avez une petite histoire avec le football.
Exactement, je partage le rêve de ces garçons. Quand j'avais leur âge, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Malheureusement, j'étais pas assez fort, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de m'intéresser à ces garçons, aux années qui précèdent un parcours professionnel, pour vivre aussi un peu mon rêve par procuration.
Et d'ailleurs, un de ces garçons, je ne sais plus lequel, veut devenir éventuellement journaliste sportif s'il ne perce pas dans le foot. Pas loin du stade Bauer, dans le nord de Paris, il y a le cours de Muriel, dans lequel travaillent des jeunes danseuses, de petites danseuses. Elles sont plus jeunes que les footballeurs qui ont 14 ans. Elles ont entre 6 et 10 ans. Et je vous propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film d'Anne-Claire d'Olivet.
Je fais de la danse lundi, mardi, mercredi.
J'ai vraiment envie de devenir une danseuse qui danse à l'opéra ou bien dans des compagnies.
J'adore être sur scène, avoir un espace pour moi.
Et hop, il faut que tu te canalises. Tu sais le faire. Tu peux le faire. Eh bien, faut le faire. Tu dois avoir l'air de quelqu'un d'agréable même quand tout ne va pas. Quoi qu'il se passe, vous dansez.
Je me suis fait mal. Il m'a dit que c'était une inflammation de la langue. J'ai très peur.
Ton émotivité comme ça, excessive, on va la canaliser. Ça va te servir à faire de belles choses.
Même si je sais que dans ce c'est Dieu, j'ai envie d'être heureuse et de ne pas avoir de regrets plus tard.
T'as envie de quoi, toi, dans ton petit cœur de petite fille ?
D'être danseuse de l'opéra.
Danseuse de l'opéra, un rêve que partage beaucoup de petites filles, mais là, les petites filles qu'on voit dans votre film, Anne-Claire d'Olivet, elles sont très talentueuses et elles sont très déterminées. Alors tout d'abord, bonsoir. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage si petite, dans quelque chose qui prend autant de place dans la vie en termes de temps et puis dans le cœur et l'esprit?
Je pense qu'au départ, on ne le sait pas, en fait. On y va, on est... Quand on est une petite fille comme Jeanne ou Olympe, en fait, c'est les parents qui inscrivent au départ. Et donc, on fait juste une activité ludique. On s'amuse, on danse. Et puis, on est prise dans un tourbillon. Je pense que c'est ça qui se passe. Et en fait, il y a la professeure dans ce tourbillon qui est là pour stimuler les enfants, qui les repère et qui veut les faire grandir tout simplement. Et ça passe évidemment par danser encore et encore de nombreuses heures. Et c'est comme ça que tout démarre.
Alors, elle se présente à des concours. Je ne connaissais pas les concours de danse. Moi, je connais le conservatoire, je connais l'Opéra de Paris, qui est le plus connu. Évidemment, il y a des écoles de danse partout en France. Les concours, c'est un petit peu particulier aussi.
Oui, tout à fait. C'est une ambiance tout à fait singulière. Moi non plus, je ne connaissais pas les concours. Et en fait, quand j'ai commencé à les découvrir sur scène, à les voir toute seule sur une grande scène devant un jury, ça m'a tout à fait impressionnée. Et je me suis dit, mais moi, j'aurais été incapable d'être à leur place, je me serais liquéfiée. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de les suivre. Et en fait, ces concours, en fait, ce sont beaucoup de filles des cours privés qui se retrouvent dans ces concours. Et ça leur permet tout simplement d'évaluer leur niveau, de tester la scène seule pour elle, de s'épanouir, d'interpréter et en fait de voir si effectivement elles sont faites ou pas pour danser, parce que finalement c'est sur la scène, c'est ça la finalité, hein. Quand on veut être danseuse, c'est pas juste faire de la barre et faire des exercices, c'est quand même briller sur scène. Et donc c'est ainsi qu'elles se retrouvent en fait sur scène dans toute la France, mais aussi à l'étranger, elles vont aussi en Belgique. Et il y a aussi des filles du conservatoire. C'est moins dit parce que ça reste un petit peu caché. Parce qu'en fait, officiellement, les conservatoires n'aiment pas trop les concours parce qu'ils préfèrent que l'enfant avance pas à pas et n'aiment pas le côté trop spectaculaire qu'on peut voir dans les concours. Parce que d'un coup, les filles vont faire des prouesses techniques, des grands jetés à 8-9 ans qu'on ne fait normalement que lorsqu'on a 14-15 ans.
On voit que cela pose aussi quelques questions physiques sur la résistance de ces petits corps frêles de toutes jeunes danseuses. Je le redis, elles ont entre 6 et 10 ans. Et ça, c'est ça qui est particulièrement impressionnant et aussi émouvant. Je précise tout de suite que la professeure n'est pas dans la réussite à tout prix. Il y a aussi une vraie relation pédagogique qui est filmée. On va sûrement y revenir. Mais je voulais poser une autre question à Basile de Burf. C'est sur ce qui constitue la source de l'engagement de ces jeunes footballeurs. Eux, ils ont, je le redis, 14 ans.
Ouais, mais alors un peu comme les petites danseuses, ils ont commencé le football très tôt. Ça commence à partir de 5 ans, 6 ans. En général, effectivement, ce sont les parents qui les emmènent. Et puis ensuite, ils se prennent au jeu, ils adorent ça et ils continuent à jouer. Il y a une forme d'auto-élimination qui va se mettre en place dans les premières années. Les moins bons vont arrêter parce que c'est pas forcément marrant d'être le moins bon. Et à partir de 10 ans, on voit vraiment...
C'est ce qui vous était arrivé, vous ?
Moi, c'est ce qui m'est arrivé, exactement. Ouais, où j'ai dû arrêter, faire le deuil de ma carrière à 12 ans. Et après, oui, à partir de 10 ans, 11 ans, où vraiment la compétition va rentrer en jeu et où ils vont prendre conscience de leur talent, d'envisager une carrière et donc se mettre dans le foot de plus en plus sérieusement.
Alors, cet engagement sportif, il plaît à beaucoup de parents, beaucoup d'adultes. C'est une des premières questions que j'ai voulu poser à Georges Vigarello. Il est historien, directeur d'études à l'EHESS. On l'a entendu très récemment sur les ondes de France Culture puisqu'il vient de publier une histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours. C'est au Seuil. Et chez ce même éditeur, il avait publié du jeu ancien aux choses sportives. C'était en 2002. Et donc, j'ai demandé à Georges Vigarello si la forme d'ordre qui règne dans le sport, l'encadrement, les règles du jeu, les précisions des techniques, les palmarès et les classements, lui donner une valeur spécifique du point de vue éducatif.
D'abord, le sport, c'est une institution, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'individus qui obéissent à des règles, qui sont des règles acceptées par tout le monde. C'est pas du tout des règles imposées. Il y a un système qui est démocratique, avec des formes d'élection des dirigeants et des responsables. Et le fait d'obéir à des règles, effectivement, à mon avis, c'est rassurant. De surcroît, le sport, dans ses visions originelles, si on peut dire, il naît à la fin du 19e siècle, hein, dans ses visions originelles, il est essentiellement moral, éducatif, formateur, etc. Et c'est vrai que si on prend le sport pratiqué par les enfants, on voit effectivement que ces rencontres ont, je dirais, une perspective sociale. Ça les aide à la fois à rentrer dans des systèmes de normes, ça les aide à accepter l'arbitrage, ça les aide à viser du progrès. Il y a une immense invention dans le sport qui me paraît très importante, que l'on a tendance à oublier, c'est la notion d'entraînement. Le sport, c'est un lieu où vous essayez de progresser en ajoutant chaque fois quelque chose d'un peu plus, mais sans nécessairement que cela représente une sorte d'effort supplémentaire. Vous voyez, ce sont des petits ajouts, vous avancez par petites marches, et finalement, vous pouvez aller très loin, et en particulier, cette notion fondamentale, vous pouvez arriver à vous dépasser. Voilà, c'est ça qui est un peu au cœur, je pense, de cette pratique. Même si il se trouve qu'on peut constater qu'elle a aussi des défauts, et en particulier, elle peut favoriser des affrontements agressifs, elle peut favoriser des dopages, elle peut favoriser des sortes de jeux financiers, ça on le sait. Mais la question qui me paraît fondamentale, c'est quand même celle de la règle, du fonctionnement de la règle et du respect de la règle.
Le sport, c'est aussi un terrain de reconnaissance pour les individus, reconnaissance de soi dans sa performance individuelle ou dans son rôle pour le collectif de l'équipe.
Absolument. Alors il y a une image que l'on a aussi tendance à oublier alors qu'elle est fondamentale, c'est l'image d'une égalité. Tout le monde, a priori, part avec les mêmes armes. Tout le monde peut participer et tout le monde se trouve en quelque sorte confronté à ses propres qualités qui peuvent être améliorées par l'entraînement, je viens de le dire, qui peuvent être aussi améliorées par l'énergie, la conviction, le travail, etc. Et au bout du compte, c'est finalement celui ou celle qui représente, qui possède les meilleurs atouts qui l'emporte. On peut considérer, moi je suis assez sensible à cette image, on peut considérer que c'est l'idéal des sociétés démocratiques, si vous voulez. On met les individus exactement dans la même situation, et puis ce sont les compétences, ce sont les efforts, les effets du trait qui l'emportent. Et le meilleur, bien sûr, il se caractérise par son talent, mais son talent, il est aussi fait de travail, d'investissement, d'engagement, d'énergie, et ça, ça pourrait être très important.
Et c'est une séduction, Georges Vigarello, qui fonctionne sur les éducateurs, les parents, qui incitent volontiers leurs enfants à s'engager dans une activité sportive, y compris une activité de compétition.
Ouais, je trouve que quand on dit cela, en même temps, on fait référence à une véritable responsabilité. Le sport, c'est un lieu où la passion peut exister. Vous voyez, le sentiment de se dépasser, ça peut entraîner ce qu'on pourrait appeler des excès. Alors, il y a des excès qui sont tolérables, il y a des excès qui ne le sont pas. Et là, les responsabilités des éducateurs et des parents me paraissent absolument fondamentales. C'est vraiment l'entraîneur qui est responsable de la manière dont l'enfant peut progresser, peut accepter la défaite, peut s'engager. Et c'est l'entraîneur qui doit, au fond, contrôler le fait que l'enfant ne bascule pas dans une passion qui peut être dévoratrice et qui, dans une certaine mesure, peut être mortifère. J'ajoute que l'entraîneur aussi, c'est quelqu'un qui est responsable, ça c'est très important, qui est responsable du contrôle de l'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que l'entraînement n'excède pas les possibilités de l'enfant. Il y a un mot, il y a un sigle que je trouve très important et qui est l'ESIP. L'entraînement sportif intensif précoce. Et la tentation, c'est vrai, c'est de faire en sorte que les plus jeunes aillent au plus loin possible, avec néanmoins des dangers que cela peut représenter. Il y a de très beaux textes publiés, en particulier par l'Académie de médecine, publiés par un auteur qui est un peu oublié aujourd'hui, et je trouve que c'est dommage, Jacques Personne, qui avait écrit des pages très importantes sur l'ESIP, l'entraînement sportif intensif précoce. Il ne faut pas qu'il soit intensif, il ne faut pas qu'il soit trop précoce. C'est fondamental pour la perspective éducative.
Et c'est bien un sujet qu'on va aborder dans la suite de cette émission. Mais Georges Vigarello, puisque vous venez d'écrire un ouvrage sur la fatigue, cela m'amène à vous poser une question sur le sujet. La fatigue, c'est une chose que les sportifs connaissent bien, fatigue physique. Mais il y aurait peut-être aussi une fatigue causée par, au mieux, la réussite, le fait de s'être dépassé, et aussi par l'échec, et puis au bout du bout du bout, la fatigue d'être un sportif qui se regarde, s'analyse, essaye sans cesse de se dépasser, et est dans une certaine relation avec lui-même ou avec elle-même.
Absolument. On peut dire plusieurs choses sur la fatigue concernant le sport. La première, c'est que c'est une fatigue acceptée. C'est pas une fatigue imposée, ça c'est très important. C'est une fatigue qui peut provoquer du bonheur et du plaisir, parce que précisément elle est liée à un désir, elle est liée au fait d'accepter de s'astreindre à un travail qui aboutit à des résultats. Ça c'est la première remarque qu'il faut faire. Il y a de la fatigue heureuse, il y a de la fatigue plaisir, c'est clair. Maintenant, il y a aussi des fatigues qui sont précisément dangereuses, parce que la passion peut les porter très loin. Il y a des fatigues aussi que l'on peut tenter de masquer avec le dopage, par exemple, pour obtenir un meilleur résultat. Et là, je trouve que, une fois encore, le rôle de l'entraîneur, le rôle des responsables, le rôle des parents est absolument, absolument fondamental. Et puis, il y a une troisième donnée, c'est que le sport nous apprend à gérer la fatigue. À travers l'entraînement, j'y reviens, je parlais d'entraînement tout à l'heure, le fait de progresser de façon infime, chaque fois, vous voyez, sans bien s'en rendre compte, mais en aboutissant à un résultat infiniment meilleur que celui qui existait au début. Le fait de gérer l'entraînement, le fait de contrôler le temps, le fait de contrôler l'espace, c'est une manière finalement de travailler sur la fatigue, c'est une manière, au fond, de parvenir à faire en sorte qu'elle soit efficace et absolument pas dangereuse. C'est absolument fondamental.
La fatigue efficace, une notion sportive donc à creuser, enfin pour moi en tout cas. On a parlé avec Georges Vigarello de l'entraînement sportif intensif précoce. C'est une question qui se pose à la fois dans le livre et dans le film. Repousser les limites physiques, des limites qui apparaissent chez des enfants qui n'ont pas terminé leur croissance. Basile Debure.
Oui, bien sûr. Il peut y avoir régulièrement des blessures. Je pense notamment à l'Osgood-Schlatter, qui est le classique des ados qui grandissent. Et surtout, on va avoir des
garçons.
Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie de croissance au niveau des genoux.
D'accord.
Les genoux qui grossissent et c'est très douloureux et ça gêne. Et il y en avait plein dans l'équipe qui avaient ça. Et ce que j'observais, c'est qu'il y en a certains qui se forçaient à jouer quand même, qui avaient peur d'être disqualifiés à cause de ça, d'être remplacés par un concurrent. Et donc, on a certains qui serrent les dents et qui jouent quand même. Donc, on voit qu'ils mettent en péril leur santé pour être sûr de pas passer à côté de leur chance.
Anne-Claire Delivet, sur cette fatigue physique et ce corps qui craque, on le voit dans le film avec une petite fille qui danse quand même, mais qui a un énorme problème de hanche.
Avec Ida, oui, qui se blesse, effectivement. Il faut faire très, très attention. Et c'est vrai que, je dirais, là, l'entraîneur a un rôle clé. Parce qu'en fait, c'est lui qui, à un moment donné, va être obligé de dire stop. Parce que sinon, l'enfant, il va continuer, comme vous disiez, Basile, parce qu'en fait, il ne se rend pas compte de son épuisement. Et donc là, il y a un moment, il faut que ce soit le professeur qui dise stop. Et c'est ce qu'on voit dans la scène avec Ida, quand elle craque et qu'elle pleure. C'est que là, Muriel la prend dans ses bras et lui dit, là maintenant, il faut que tu arrêtes. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu vas chez la kiné, elle se soigne. Mais il faut faire très, très attention à ces signes de fatigue. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Et l'enfant peut beaucoup dissimuler parce qu'il va vouloir toujours en faire plus.
C'est l'enfant hein, aussi qui est ambitieux. On peut dire un mot à la fois du genre, puisque ce sont des danseuses et des footballeurs, des sports ultra genrés, même s'il y a des danseurs et des footballeuses. D'ailleurs, on voit un ou deux petits danseurs dans le film. Ils sont un peu derrière, mais on voit qu'ils dansent. Et puis, on parle aussi un peu des footballeuses dans le livre. Et puis, la question du milieu social. Parce que là où les danseuses évoluent dans un univers très bourgeois, de grands et beaux appartements, c'est comme ça. Et les footballeurs, eux, sont de purs produits de la banlieue parisienne, puisque, je le redis, le club dans lequel vous êtes immergé, Basile de Bure, pendant un an, c'est le Red Star, un club très connu des Parisiens.
À Saint-Ouen.
Oui, voilà.
Exactement. Mais oui, c'est vrai que c'est un univers d'hommes qui avait que des garçons, les entraîneurs, les managers, les directeurs sportifs, on est vraiment en permanence dans un monde d'hommes.
Ça compte dans la construction des ados.
En même temps, on est aussi à un moment un peu tournant dans le football où on met de plus en plus en avant le football féminin, où il y a le développement d'équipes féminines. Au Red Star en particulier, où il y a toujours cette tradition et où il y a vraiment des équipes féminines qui sont de plus en plus mises en avant par les clubs, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc les garçons, ils ont des copines du collège à Saint-Ouen qui jouent dans l'équipe du Red Star. Donc ça commence à bouger un petit peu. Mais je trouve que quand même, quand on observe les matchs des filles et qu'on est sur le bord du terrain, on continue à entendre des réflexions un peu sexiste, c'est dommage, mais au niveau des mentalités, il y a encore un petit peu de travail.
Et le fait d'appartenir à des catégories populaires et de le revendiquer, parce que c'est aussi l'image du club du Red Star, qui est aussi un club militant, avec une identité même politisée, hein, à gauche, c'est aussi des banlieues rouges. Est-ce que cette identité populaire, qui est l'origine de la plupart des grands footballeurs français, elle est revendiquée en tant que telle ?
Alors, la traduction d'extrême gauche du Red Star, les garçons, ils la connaissent pas vraiment. Après, la différence qui va se faire, c'est qu'effectivement, pour eux, le football, c'est aussi un ascenseur social. Ils ont envie de s'en sortir par le football. À 14 ans, ils ont déjà intégré que l'école ne serait pas forcément un moyen de s'élever. Et les gratifications que les enfants des beaux quartiers reçoivent à l'école, eux, c'est au football qu'ils vont les chercher.
Et quelles gratifications recherchent les petites danseuses plus jeunes ? Ont-elles conscience du reste de venir de milieux si privilégiés
Alors,
pour
je
ce
vous
que montre le film.
Oui, en fait, elles ne sont pas de milieux si privilégiés, donc je coupe parce que, par exemple, Olympe et Naomi, elles habitent à Saint-Ouen et elles allaient à l'école à Saint-Ouen. Après, elles sont rentrées dans un horaire aménagé, donc maintenant elles sont dans une école dans le sud de Paris qui est effectivement plus privilégiée, etc., qui reste une école publique.
Non, mais ça néanmoins reste de grandes maisons.
Oui, mais c'est effectivement, c'est pas la banlieue, on n'est pas à Saint-Denis dans un milieu extrêmement populaire. Mais ce n'est pas le cas de tous les élèves de Muriel, et je tenais juste à le dire parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui sont là pour qui c'est un grand sacrifice. Et lorsqu'ils voient que leur enfant est doué et que Muriel leur demande de venir plus souvent, ils se posent des vraies questions.
Parce que ça coûte cher.
Parce que ça coûte cher. Et que la mère de Marie, par exemple, elle est institutrice et elle élève seule sa fille. Donc pour elle, c'est un vrai engagement financier. Et Muriel insiste toujours en disant « Oui, mais finalement, quand les enfants ont cet âge-là, 8-10 ans, C'est comme si elles avaient déjà passé leur bac et qu'elles étaient dans leurs études supérieures. Donc c'est un engagement financier maintenant, parce que c'est maintenant qu'elles font leurs études supérieures.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Je n'ai pas pu résister, c'était ma série préférée quand j'étais enfant, c'est Fame, le quotidien d'élèves d'une école new-yorkaise, une école des arts et du spectacle. Cette série faisait suite au film d'Alan Parker et cette chanson, donc interprétée par Irène Cara, qui est aussi l'interprète de What a Feeling, la chanson du film Flashdance. J'ai pensé d'ailleurs à faire une émission sur l'émancipation par la danse vue par le cinéma, Dirty Dancing, La fièvre du samedi soir, Billy Elliot, mais en fait on va revenir à la danse classique et on va parler avec le sociologue Fabrice Burlot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Vous avez, vous, travaillé sur la boxe, une discipline controversée, enfin ça c'est dans le titre de votre ouvrage. On parlait de reconnaissance avant la chanson, qui elle-même parle de célébrité. Alors, quelle est la place de la reconnaissance dans le parcours des sportifs de haut niveau? Est-ce qu'on fait ça pour être reconnu et comment?
Effectivement, en fait, on rentre un petit peu dans le sport de compétition. Bah, on va se sentir progressivement un petit peu sentir reconnu, mais en même temps, on va se sentir aussi obligé de satisfaire un petit peu cette reconnaissance. Et puis, de la même manière, on va aussi se sentir presque obligé de répondre à cette reconnaissance en continuant à progresser et en continuant un petit peu ce chemin de la performance, c'est-à-dire de faire des performances toujours de plus en plus élevées, soit en termes de gestuelle, soit en termes de prestations dans un match de foot, soit en termes de record. Et puis, une espèce d'engrenage, pas simplement une reconnaissance qui nous vient de la famille proche ou de l'entraîneur, mais aussi des copains, des amis qui nous suivent dans le quartier pour les jeunes footballeurs, dans notre territoire pour les petites danseuses, et puis quand on les croise dans la rue, qui nous encouragent, nous disent « Oh, on t'a vu ». Enfin, ça, c'est quand on commence à être un petit peu médiatisé, mais bon, il y a toujours une petite médiatisation qui commence dans les journaux locaux et puis qui finit sur des médias plus généraux. Cette reconnaissance, évidemment, le jeune sportif, il l'aime, mais en même temps, elle l'enferme dans une logique, une espèce d'injonction de continuer sur ce chemin de la performance, et où là se trouvent évidemment des situations qui peuvent être problématiques. Et puis, on peut pas continuer à être aussi performant, donc on déçoit. Et c'est là où on peut se trouver dans des situations très problématiques.
Est-ce qu'on peut dresser des parallèles avec les carrières artistiques? Alors, c'est assez évident pour la danse, mais pour le foot, on parle également de sport-spectacle.
On est un peu sur les mêmes logiques, c'est-à-dire le sportif, lui, va s'entraîner toute la semaine pour se produire dans un match de foot ou pour se produire sur une scène. Et la danseuse, de la même manière, va faire des répétitions. Le comédien, il va faire des répétitions et puis il va se produire sur une scène, dans un théâtre, dans un film. Voilà.
On doit parler du temps, puisqu'il y a le temps d'entraînement, le temps du travail et puis le temps de la représentation ou du match, et puis une gestion du temps en général pour le jeune sportif qui concerne le sommeil ou l'alimentation, par exemple, Fabrice Burlot.
Le temps devient vraiment en fait l'élément primordial d'une carrière quand on se dirige vers une performance sportive, parce qu'on est dans une situation de concurrence, donc avec d'autres personnes qui veulent également produire une performance. Et donc, pour produire cette performance, eh bien, on est obligé de beaucoup s'entraîner. Et évidemment, les heures d'entraînement sont de plus en plus considérables. Il faut aller faire des stages. Il faut aussi faire de nombreuses compétitions. Plus on monte en niveau, c'est-à-dire plus on augmente notre objectif de performance. Puis, en parallèle, si on veut devenir performant aujourd'hui, il faut avoir recours à des préparateurs physiques, à des préparateurs mentaux. Il faut faire de la récupération. La récupération, ça permet de reproduire des entraînements encore plus rapidement, c'est-à-dire d'avoir des courbatures qui vont être sans doute allégées. Il va falloir faire attention à sa alimentation, donc avoir recours à un nutritionniste. Il va falloir faire attention à son sommeil. Et puis la particularité pour les jeunes, c'est que en parallèle de ce projet sportif qui devient de plus en plus exigeant et qui embraye sur une pression temporelle, on a une obligation, en tout cas une contrainte de double projet, c'est-à-dire faire en parallèle de cette vie sportive un projet de formation ou être salarié pour les plus âgés. Donc ça aussi, ça prend du temps, parce que si on est en train de passer le bac, les sportifs de l'INSEP, par exemple, ont entre 20 et 25 heures de cours par semaine quand ils sont au lycée. Ils ont, pour certaines disciplines sportives, une trentaine d'heures d'entraînement. Donc la question, c'est comment on concilie ces différentes temporalités, sachant
comment justement on accélère le temps.
On accélère le temps en devenant un petit peu maître de son temps. C'est-à-dire, ce qu'on a repéré dans l'enquête qu'on a faite sur les rythmes de vie, c'est que effectivement les sportifs, la figure du champion rejoignait en quelque sorte la figure du maître du temps. C'est-à-dire ce sportif qui, face à ces différentes temporalités avec lesquelles qu'il compose pour rester équilibré, va être capable de déployer des stratégies, en sacrifier certaines, en réduire, manger plus vite, dormir moins longtemps, aller moins souvent voir sa famille, peut-être parfois dormir pendant les premières heures de cours pour pouvoir dormir, pour pouvoir concilier ces différents temps sur lesquels on l'attend. Voilà. Et notamment, par exemple, les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que ça, c'est une temporalité qui n'existait pas il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, dans ce souci de reconnaissance qu'a le sportif, où il se montre sur les réseaux sociaux, il montre ses performances sur les réseaux sociaux, ça lui prend du temps aussi. Et donc, il va le soir, il va y passer. Mais quand il a fait une journée à s'entraîner et qu'il a eu des heures de cours, qu'il a dû téléphoner à sa famille et qu'il a dû manger et dormir, il passe aux réseaux sociaux le soir, et le soir, il se couche plus tard, et puis là, on en arrive à réduire les temps de sommeil, comme on a repéré chez un certain nombre de sportifs mineurs qui sont à l'INSEP, parce que les réseaux deviennent importants, et c'est aussi le réseau social qu'il va utiliser, c'est aussi le moyen de montrer qui il veut bien nous montrer, c'est-à-dire toujours dans ce souci d'être reconnu comme un champion.
Et voilà qui boucle avec la question de la reconnaissance. Ça prend du temps, mais Anne-Claire d'Olivier, vous réagissiez, je vous voyais hocher la tête sur cette question du temps.
Oui, sur la question du temps et de la reconnaissance, parce que c'est vrai que ça m'a fait penser en fait à une scène à laquelle j'ai assisté, qui était en fait Marie qui était en train de répéter pour un spectacle de fin d'année avec toutes ses copines, et Muriel qui ne faisait que lui crier dessus, en fait. Et Marie a fini par craquer et sortir en pleurant. Et toutes les filles, en fait, sont allées la voir spontanément et lui ont dit mais c'est parce que tu es la meilleure, tu es la meilleure du cours. Donc, en fait, elle te demande encore plus parce qu'elle sait que c'est toi qui vas être la soliste, donc celle qui va occuper seule le plus souvent la scène dans le spectacle. Donc, finalement, en fait, cette reconnaissance, parfois, elle peut être un peu piégeante pour l'enfant qui ne va pas forcément savoir quoi en faire et comment le vivre et qui va parfois craquer parce que c'est trop en fait. Trop de reconnaissance, ça peut être déstabilisant pour l'enfant. C'est très bien d'être adulé, mais après il faut savoir comment gérer ses émotions. Et comme après elle a été reçue au conservatoire et qu'elle faisait les cours de Muriel en plus pour pouvoir continuer à faire les concours, à être valorisée par des médailles d'or, des premiers prix, il y a eu un moment où c'était trop, le temps, la temporalité justement, finalement, elle ne pouvait plus tout faire. Donc il a fallu faire un choix. Et là, c'est la maman qui a dit stop. Tu vas arrêter les cours chez Muriel parce que tu ne peux plus tout gérer. Tu es trop fatiguée. Entre-temps, Ida s'était blessée. Donc il y a eu cet exemple qui a beaucoup marqué.
Une autre des héroïnes de votre film.
Exactement. Et ça a marqué quand même tout le groupe de cet âge, de cette classe de danse. Et là, la maman a dit stop. Maintenant, il va falloir faire des choix. Mais c'est vrai qu'elles ont un emploi du temps. Elles se lèvent à 6h du matin. Elles passent beaucoup de temps dans les transports en commun. Il faut quand même performer à l'école, parce que ce sont en fait les parents, en tout cas de cette classe de danse, demandent beaucoup. Donc, ok pour la danse, mais il faut aussi réussir les études. Il faut avoir le bac, parce que si tu te blesses, tu ne pourras pas être danseuse. Donc, qu'est-ce que tu feras ? Donc, il faut que tu aies ton bac. Et donc, il faut performer à l'école, il faut performer à la danse, il faut manger vite. Effectivement, ça, je les ai vus, prendre leur petite barquette, allez hop, faire les cours de danse l'après-midi, rentrer, faire les devoirs, il est tard, c'est la nuit. C'est vrai que c'est des enfants, en général, qui fonctionnent très bien avec leur tête, donc qui vont très vite, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, la fatigue est là et rattrape, surtout quand, en plus, pendant les vacances, il faut faire les stages. Il faut, en tant qu'adulte, je pense, être là pour accompagner l'enfant. C'est le rôle, encore une fois, du parent. Je pense que c'est aussi le rôle de l'entraîneur.
Et sur la gestion du temps et de la notoriété, qui est le problème ou la question des réseaux sociaux, vous en parlez, Basile de Bure, à plusieurs reprises, de la présence, par exemple, de certains des jeunes footballeurs sur Snapchat, plutôt. Oui, ils sont pas sur Facebook, ça c'est pour les personnes âgées, pour eux, n'est-ce pas? Et le tout, avec la même chose, des temps de transport,
Exactement.
Des temps pour qui sont réduits avec la famille, etc.
Moi, je retrouve beaucoup de points communs avec ce que Anne-Claire décrivait. Il y a vraiment beaucoup d'exigences de la part de l'entraîneur et qu'il justifiait de la même façon, de dire c'est avec les meilleurs qu'on est le plus exigeant. Donc qui était très très dur. Moi je me disais qu'à leur âge j'aurais craqué, mais les garçons ne craquaient jamais. Beaucoup de temps, 3 séances d'entraînement par semaine plus le match du samedi. Certains habitaient assez loin, à Aulnay-sous-Bois ou ailleurs en Seine-Saint-Denis, donc c'est 1h30 de transport.
C'est très grand la Seine-Saint-Denis.
Pour y aller, 1h30 pour revenir. Donc c'est un investissement de temps énorme. Des séances particulières avec des coachs sportifs pour travailler le corps en plus. Donc vraiment c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Moi, c'est la quantité de travail que ça représente. Mais Georges Vigarello disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose de rassurant dans l'apprentissage de la règle et de la norme. Il y a aussi quelque chose de rassurant dans la routine, dans cette routine des entraînements, je trouvais, qui sont toujours les mêmes, toujours pareils. Des exercices qui ressemblent un peu aux gammes des pianistes, où on fait une passe 10 fois, 100 fois de suite, sans jamais s'arrêter, sans jamais se lasser. Et en fait, je me rendais compte que c'est dans le toujours pareil et dans cette routine que vraiment les garçons trouvaient leur équilibre. Ça, c'est quelque chose de très important. Et après, sur la notion de gestion de l'image des réseaux sociaux, il maîtrise les réseaux sociaux beaucoup mieux que les générations précédentes qui les découvraient et qui n'avaient pas mesuré l'impact que ça aurait sur l'opinion. Ils savent très bien comment ça marche, ils savent très bien se mettre en scène sur Snapchat, sur Instagram. Et moi qui les suis sur tous ces réseaux, c'est assez amusant de voir la solidarité qui existe sur les réseaux. Comme ils postent des images et des photos de ceux qui réussissent, de ceux qui signent avec un petit mot. Et en fait, il y a vraiment un tissu comme ça de solidarité qui se développe dans toute la France où ils se connaissent tous grâce aux réseaux sociaux. J'étais frappé de voir comme à 14 ans, ils savent qui est le petit prodige à Reims ou à Montpellier. Ils se connaissent et ils échangent en se mettant justement en valeur les uns les autres sur les réseaux.
Oui, c'est vrai, c'est pareil en danse. Et je pense qu'effectivement, ils font plus attention que les générations précédentes. Et ils savent maintenant, en fait, construire, entre guillemets, leur personnage. Et après, c'est vrai qu'il y a une histoire de... je vois en danse, elle a fait 3 pirouettes, ben moi je vais montrer que je sais en faire 4.
Il y a une émulation.
La compétition est aussi sur... s'invite dans les réseaux sociaux aussi.
Et dans le football, il y en a certains aussi qui, à 14 ans, ont déjà des contrats de sponsoring. Donc, ils doivent aussi poster la photo avec les nouveaux crampons qu'ils ont reçus de telle ou telle marque.
Eh oui, mais c'est pareil aussi en danse. Ouais, on retrouve.
Mais nous pensions qu'il y avait beaucoup de similitudes dans ces parcours et les balises de ces parcours, parents, entraîneurs, travail, évidemment, la fatigue, les réseaux sociaux. Et puis, peut-être. ce risque de la déception, de l'échec, qu'on peut considérer comme relatif, mais qui sera considéré comme un échec par les athlètes. Karine Duclos, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être qu'on peut parler de ce risque, de cette appréhension, et puis de ce qu'on peut faire de l'échec quand il arrive avec vous. Vous êtes maître de conférence en psychologie à la Faculté des sciences du sport de Nancy. Cette question chez les sportifs de haut niveau, comment elle s'intègre à un projet, puisque évidemment, si on fait tout ça, si on s'investit à ce point-là si jeune, c'est pour réussir, mais on a bien conscience que ça ne marche pas à tous les coups, que les gagnants sont peu nombreux.
Oui, bien sûr, c'est à la fois la beauté du sport du haut niveau et sa cruauté, hein, on le sait. Sinon, on serait tous champions olympiques, la question ne se poserait plus. Mais telle n'est pas la réalité. C'est vrai que moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est la place du jeu, J-E-U, du jeu J-E, donc qui référerait plutôt à l'identité, et de l'enjeu. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, comme disait un de vos invités tout à l'heure, l'enfant commence une pratique sportive par la découverte, par le plaisir, même si effectivement, la plupart du temps, ce sont les parents qui inscrivent, qui orientent, qui est en fonction de leur parcours personnel ou de leur déception personnelle, hein, pourquoi pas. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, il y a un effet de rencontre très très fort entre un enfant et une pratique sportive. Et puis, à un moment, effectivement, il y a ce fameux tourbillon qui peut émerger, et là il y a les premiers glissements vers une activité plus de recherche de performance, de haute performance, de compétition, etc. Et c'est là où on peut être confronté à beaucoup de déséquilibre, hein. On a parlé de reconnaissance, on a parlé dans laquelle j'insérais cette notion d'identité, entre le jeu J-E-U, le fait de se pratiquer avec plaisir, peut, au fur et à mesure, glisser davantage vers une question d'enjeu, avec le support de la reconnaissance qui conditionne quelque part la pratique. Et on peut passer d'une pratique consentie, souhaitée, à une pratique qui va être plutôt dans une forme d'obligation. Et c'est cet équilibre très très fragile entre la contribution, donc ce que j'engage de moi, de mon temps, de mes efforts à la fois physiques, psychologiques, etc., au regard de ce que j'en reçois, donc l'équilibre entre la contribution et la rétribution. Et bien évidemment, cette rétribution est en premier lieu symbolique, hein, c'est la logique de la reconnaissance. C'est toute la difficulté dans la relation au corps, la relation au risque, la relation à la douleur. On le voit très tôt dans Petite Danseuse, hein. C'est peut-être une des premières phrases, c'est « souffre, mais en souriant ». Donc ça, c'est un peu une trame, la relation à la douleur. Et la question qu'on peut poser, c'est quelles sont les conséquences pour la structuration psychique de ces jeunes danseuses, de ces joueurs,
tout à fait etc. La question, c'est tout à fait la question que je souhaite vous poser, parce que se faire si mal, alors il n'y a pas que de la douleur, hein, mais elle est présente, et avoir cette relation à son corps, un corps performant quand on est même pas encore un adolescent, mais bien un enfant, c'est le cas pour les danseuses. Qu'est-ce que ça peut produire psychiquement, puisque à terme, sportif de haut niveau ou non, les enfants sont destinés à devenir des adultes, avec des traces donc sur leur rapport au corps, enfin, j'imagine.
C'est là où la question de l'expérience, elle est importante aussi. C'est vrai que dans le sport de haut niveau, ou même chez ces jeunes danseuses, on n'est pas dans l'équilibre. Nous sommes toujours en train de chercher de l'équilibre dans le déséquilibre, où on flirte très rapidement avec des points de rupture en espérant des points d'exception. Et puis le rapport au corps. C'est vrai que le corps de la danseuse, c'est un corps maîtrisé, c'est un corps très technique. C'est un corps quasi normé. C'est aussi un corps un peu puzzle. Hein, pense à ta tête, tes épaules, tes coudes, tes pieds.
Oui, c'est ce qui rend la pratique de la danse très difficile à comprendre, voire à envisager. Alors, je ne sais pas si je partagerai le terme effroi, mais dans la gestion du corps chez les enfants et les adolescents, par exemple pour les danseuses, l'idée de rester filiforme, c'est ça le corps de la danseuse classique. En tout cas, ça aussi, ça peut laisser des traces. On connaît l'occurrence des problèmes, des troubles liés à l'alimentation chez les adolescentes et les jeunes femmes, et les femmes d'ailleurs. Ce sont aussi des questions qui se posent au sport de haut niveau.
Très particulièrement, c'est vrai que cette recherche de maîtrise du corps, cette recherche de perfection, d'idéal en tout cas, s'accompagne très souvent avec des troubles du comportement alimentaire. Alors il faut surtout pas généraliser, hein, bien sûr, heureusement, mais en tout cas ça en fait une population un peu à risque, hein, par rapport à ces troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que malheureusement l'anorexie n'est pas si rare que ça dans le corps des danseuses.
Anne-Claire d'Olivet.
Oui, alors c'est vrai, je voudrais revenir sur le mot passion en fait, hein, que vous avez utilisé tout à l'heure. Parce qu'en fait, je crois qu'il s'agit de cela. Et dans le mot passion, eh bien, il y a forcément le mot, enfin l'amour de ce qu'on fait plus que normalement. Et il y a aussi forcément la douleur. Et c'est quelque chose, voilà, il faut jongler avec tout cela. Au départ, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est voir son corps obéir à ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc ça, c'est très jouissif. Après, il y a la prof qui stimule, donc on va faire de plus en plus, jusqu'à possiblement se faire mal. Et c'est là où il faut faire attention, et jusqu'à se fatiguer, jusqu'à l'épuisement. Mais moi, je me souviens d'une parole d'une danseuse qui m'avait dit, en fait, parce que je lui disais, mais tu souffres, tu en as pas marre par moment d'avoir mal. Elle me disait qu'elle avait fait passer des auditions avec des fractures de fatigue, quand même. Et elle me répondait, bah, si, par moment, j'en ai marre, mais j'essaie de me souvenir de la petite fille que j'étais et qui aimait tant faire la barre et qui souriait autant pendant un cours de danse. Et j'essaie de me rappeler cette petite fille-là. Et je pense que les petites filles de petites danseuses, elles sont encore là-dedans. Elles sont pas encore dans...
Vous avez pratiqué la danse, vous, enfant ?
Oui, beaucoup. Et moi, justement, il y a eu un moment où j'en ai eu ras-le-bol. Où je ne pouvais plus supporter...
Mais vous l'avez éprouvé, cette passion ?
Mais bien sûr, je l'ai éprouvé, cette passion. Et j'adorais ça. Et en même temps, je rentrais avec les pieds en sang à cause des pointes. Et j'en avais marre et j'avais mal, mais j'y allais encore. Et j'avais une relation même passionnelle avec ma prof de danse, en fait. Parce que il y a aussi ça, quand même, hein. C'est qu'on est poussé par sa professeure, on veut lui plaire. On adore. Et puis, à un moment, bah, tout explose. En général, c'est à l'adolescence. Moi, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est qu'en fait, je ne supportais plus qu'elle me dise quoi que ce soit. Enfin, il y a eu un moment où... En plus, en danse, c'est très tactile. Il faut corriger les positions, etc. Et je ne supportais plus cette approche. Et donc, j'ai tout envoyé valser. Et je pense que là, les petites filles qu'on voit encore une fois dans le film, elles ne sont pas encore là-dedans. Elles sont encore vraiment dans le plaisir. Et je voudrais aussi ajouter que quand même, j'ai l'impression que dans la pédagogie, on a avancé aujourd'hui. C'est-à-dire que Muriel... elle est quand même aussi dans la bienveillance, parce que je vous entendais parler d'effroi tout à l'heure. Il faut quand même lui reconnaître cela.
C'était Karine Duclos.
Oui, oui, tout à fait.
Après, ça provoque chez nous des sentiments, je pense, qui nous renvoient à notre état d'enfance.
Et contradictoire.
Ouais. Basile Debut raconte dans son livre qu'il est retourné jouer au foot après son échec de 12 ans. Vous dansez encore, Anne-Claire d'Olivet ? Vous avez
redansé ? Oui, je danse encore. Et pourtant, j'ai arrêté pendant longtemps. J'ai fait d'autres formes de danse, mais je me suis remise à la danse classique. Et j'ai découvert un professeur extrêmement bienveillant qui, d'ailleurs, récupère beaucoup dans son cours.
Il y a un marché de ce côté-là.
Un marché de ce côté-là, oui.
Ce sera ma toute dernière question, Basile Debut. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et à raison, hein, des valeurs qui nous animent en France, de comment on doit en parler aux enfants et aux adolescents à l'école. Est-ce qu'on en parle dans les clubs de sport ? Est-ce que les jeunes sportifs amènent des débats sur la laïcité ? Vous parlez à un moment de joueurs qui font le ramadan, alors pas du tout tous, hein. Mais est-ce qu'on discute de ça dans l'enceinte du club ?
Bah, déjà, en ce moment, je trouve qu'on parle beaucoup de la façon dont les lois religieuses prennent le pas sur les lois de notre démocratie et des problèmes que ça peut représenter. Moi, je me suis rendu compte pendant mon enquête qu'il y a une loi qui surpasse celle de la religion et toutes les autres dans le contexte d'un club de foot, c'est la loi du vestiaire. Il y a une loi qui régit l'ordre de cette équipe, c'est le meilleur joue, le moins bon est sur le banc, et que ça dépasse tout. Après, la question de l'identité, elle est très présente dans un vestiaire, mais plus au niveau des origines.
Des origines des pays.
Voilà, exactement. Je leur posais souvent la question, quel est le pays que vous aimeriez représenter ? Ces garçons, ils sont tous français, mais issus de l'immigration et principalement africaine. Tous, ouais. Il y a un petit Colombien, un Serbe, mais sinon ils sont tous originaires de pays d'Afrique, en tout cas leurs parents. Mais ils ont la nationalité française et quand on leur demande le pays qu'ils veulent représenter, la réponse qui arrive en premier, c'est le pays des parents. La fierté de représenter les origines. Ça, c'est quelque chose de très présent. Donc j'ai essayé un peu de discuter avec eux, j'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que ça s'inscrit dans un contexte un peu général, un sentiment de rejet de la part de la société française et une envie du coup d'affirmer cette identité différente à travers le football également.
Il y a aussi une grande fierté à intégrer des clubs de villes telles que Lyon, Le Havre, puisque ce sont de bons centres de formation.
Absolument, ouais. Il y a les équipes qu'ils supportent en général, ce sont celles qui ont les meilleurs centres. Ils aiment beaucoup Lyon, plus que le PSG, parce que c'est une ville qui est reconnue pour la qualité de sa formation. Donc ça, c'est intéressant à observer.
On parlait de religion, est-ce qu'on peut parler de transcendance à travers le sport ? Quelque chose qui pourrait être recherché par tous, mais particulièrement par les adolescents, en quête d'absolu. Quelque chose qui est très haut, plus fort que nous, qui nous précède et restera après nous des valeurs, mais qui sera attaché, pour le coup, au sport, Basile Debure.
Oui, il y a quelque chose de presque sacré dans leur pratique du football. C'est ce qui prend le pas sur tout. C'est là où ils sont heureux aussi, là où ils expriment le plus de joie dans leur quotidien. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de la respectabilité. En pratiquant le football, ils ne fument pas, ils ne boivent pas. À un âge où les copains d'école font leur première découverte de ce côté-là, eux, ils gardent cette rigueur. Ça rejoint un peu la discipline sur l'alimentation, tout l'entraînement invisible, le sommeil. Donc le sport leur amène aussi une forme de respectabilité.
Anne-Claire Dolivet sur la transcendance, oui, et l'élévation.
Il y a des enfants sur scène qui se révèlent complètement. On les voit, on les observe en cours et on se dit « oui, bon, d'accord, je ne sais pas ce que... bon. » Et en fait, sur scène, on en reste complètement bouche bée, tellement ils sont beaux à observer, ils sont ailleurs. Et c'est magnifique, en fait, ils se réalisent littéralement par la scène et par la pratique de leur art. Et ça, c'est très très beau à observer.
Et c'est ce qu'on voit aussi dans ce film « Petite danseuse ». Il sera en salle le mercredi 4 novembre, Anne-Claire Dolivet. Et « Deux pieds sur terre », c'est publié chez Flammarion. Merci également, Basile Debure, d'avoir été avec nous. Merci également à Avril Ventura pour l'idée et l'organisation de ce numéro d'Être et Savoir réalisé par Philippe Baudouin. Anthony Thomasson était à la prise de son ce soir. Cette émission et toutes les précédentes sont à podcaster et à écouter où et quand vous voulez sur franceculture.fr et l'application Radio France. Et la semaine prochaine, lundi 2 novembre, à l'occasion de la rentrée en classe des élèves et des professeurs, Radio France et donc France Culture organisent toute une journée consacrée aux enseignants et à l'éducation. Nous serons bien sûr avec Être et Savoir au rendez-vous. Nous parlerons des médias et de la présence de l'actualité en classe et à l'école.